Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous, au micro Pierre-Paul Delvaux pour continuer avec le Père José Willibald Michaud la lecture cursive du chapitre 20 de Saint Jean. Nous venons de commenter longuement cet épisode où Marie de Magdala reconnaît Jésus et je relis, c'est la fin de ce passage et à partir du verset 15, Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ? » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas ainsi. » car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Alors Père José, vous avez commenté notamment ce terme hébreu « Rabouni » en disant que ça ne signifie pas seulement « maître », mais « mon maître à moi », et qu'il y a encore quelque chose de possessif là-dedans. Et on peut supposer d'ailleurs, entre les lignes, qu'il y a un véritable élan, puisque Jésus ajoute « ne me retiens pas ainsi ». C'est tout un mouvement de tendresse, et la distance que Jésus prend est également une incroyable tendresse, une grande délicatesse. Mais je voulais souligner aussi ce que Jésus ajoute. « Je ne suis pas encore monté vers mon Père », un thème important, c'est le thème de l'ascension. « Et pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » C'est de nouveau cette insistance. C'est un des points forts de l'Évangile.
Et donc, par cette phrase, Marie devient la première annonciatrice de la résurrection. Pierre et Jean n'ont pas encore formulé de cette façon leur rencontre. Ils n'ont pas rencontré Jésus d'ailleurs. Tandis que Marie est la première messagère de la résurrection. Et ça, je trouve ça, à notre époque, important. C'est une femme qui est la première à partager cette nouvelle bouleversante.
Il y a d'ailleurs quelque chose qui est en résonance avec la Samaritaine. J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. C'est pas textuel, mais en tout cas, il y a une résonance.
Tout à fait. Absolument.
Voilà, nous pouvons certainement continuer avec la séquence suivante où finalement Jésus se manifeste à ses disciples, mais en deux fois. C'est le fameux épisode d'abord sans Thomas et puis avec Thomas. Oui. Je vais lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 29. Chapitre 20, versets 19 à 29. Avant ma lecture, soulignez une série de termes. Il y sera question de paix, de joie, de souffle et d'envoi aussi. Je crois que ce sont des termes qui sont très riches et que nous commenterons par la suite. D'accord. Le chapitre 20, versets 19 à 29. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant, Thomas, l'un des douze, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur répondit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Cet épisode en deux temps, en quelque sorte, se termine, nous y viendrons tout à l'heure, par une béatitude, finalement, bienheureux. C'est la seule béatitude que l'on peut lire dans l'évangile de Jean. Mais voilà, Père José, maintenant, c'est au tour des disciples. Et c'est le soir même qui était le premier jour de la semaine, alors que par crainte des Juifs, les portes étaient verrouillées. Donc il y a vraiment ici cette atmosphère de bouleversement et de crainte.
Oui, ce qui est même étonnant, c'est la proximité de cet événement avec le précédent. C'est que c'est le premier jour, ça démarre très vite. La crainte des disciples, ils restent apeurés et enfermés. Et cette insistance est d'ailleurs nette quand on dit que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Mais alors, la première parole de Jésus ressuscité, c'est une parole de paix. La paix soit avec vous. Ça reste le souhait chrétien par excellence. C'est d'ailleurs la formule qu'emploie le pape, par exemple. C'est toujours la paix. Jésus ressuscité vient apporter dans le monde, dans l'humanité, une paix nouvelle. Dans le discours d'après la scène, il a d'ailleurs dit « Je vous laisse la paix » et il insiste « Je vous donne ma paix ». Ce n'est pas n'importe quelle paix. C'est la paix d'être rejoint et de pouvoir entrer dans la vérité, dans la plénitude de la vérité et d'une vérité vivante et qui donne la vie. Alors, Jésus insiste sur son souhait, la paix soit avec vous, et puis, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, le jour de la résurrection commence déjà la Pentecôte, si je puis dire. Jésus, ressuscité, ne peut que répandre son esprit de vie, sa vie nouvelle. Recevez l'Esprit Saint.
Et d'ailleurs, les disciples vivent la joie aussi.
Oui, il y a la joie. C'est la joie. En effet, le mot est là. Mais alors, ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et puis, c'est cette phrase étrange qui suit. « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez ». C'est une phrase que certains exégètes discutent en disant il ne s'agit pas de dire que au confessionnal, on peut enfermer le pécheur dans son péché en disant « tes péchés sont retenus ». Il s'agirait de dire peut-être « ce que vous liez sur la terre est lié d'une façon définitive ». C'est l'importance de la parole de miséricorde et de pardon.
Certainement, mais on peut peut-être dire aussi, et c'est une question de ma part vraiment, quand on donne un pouvoir aux hommes, c'est toujours dangereux. C'est toujours dangereux.
Ah, c'est ça, oui. Ah, oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'il donne ici exactement comme pouvoir ?
Le pouvoir de délivrer. C'est surtout ça. Jésus est un libérateur et il veut absolument effacer jusqu'au souvenir de ce qu'on appelait le péché. C'est une parole de libération.
Donc la deuxième partie de la phrase est plus gênante en quelque sorte.
Je trouve aussi. Qu'est-ce que c'est que ces péchés retenus ? Je me demande si on ne peut pas l'entendre ainsi. Attention à votre responsabilité. Vous avez maintenant le pouvoir et la mission de rendre la liberté aux hommes, de remettre les péchés. Ne négligez pas votre tâche, car c'est de vous que dépend la libération de l'homme. Donc, ceux à qui vous n'apporterez pas ce message resteront prisonniers. Donc c'est plutôt une insistance sur la responsabilité.
D'accord.
Je crois.
C'est là-dessus que nous allons faire une petite pause musicale avec un concerto de Mozart pour piano et orchestre, le concerto numéro 21, tout lumineux, concerto en ut majeur.
Thank you.
Sur RCF, après Mozart, nous continuons notre lecture cursive du chapitre 20 de Saint Jean. Et nous sommes dans cette rencontre entre Jésus et les disciples. Nous venons de lire cet épisode du verset 19 au verset 23, où il insiste sur la paix, où les disciples vivent la joie, et où Jésus dit « Recevez l'Esprit Saint, il souffle sur eux ». Et vous avez souligné, Père José, la responsabilité qu'ont les disciples de pouvoir libérer les hommes et d'œuvrer pour la miséricorde. Alors la deuxième partie de ce petit passage, c'est l'histoire de Thomas. Thomas n'était pas là, et Thomas, lui, il a une exigence curieuse. Il dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, si je n'enfonce pas la main dans son côté, je ne croirai pas. Ce sont tout de même des demandes assez étranges et très étonnantes ici. Comment voir ce personnage Thomas qui est finalement assez sympathique ?
Il est sympathique, c'est Thomas est un fonceur. C'est lui qui, avant la Passion, avait dit « Montons à Jérusalem avec lui et mourons avec lui ». Donc Thomas est quelqu'un d'engagé, mais il a besoin d'un engagement concret. C'est évident que l'absence de Jésus l'avait déconcerté et même détruit. Donc il y a quelque chose de détruit en lui.
Et pour réparer tout cela, il a besoin de toucher véritablement.
Voilà. C'est ça. Thomas a besoin de voir et de toucher. Et c'est dans cette exigence que Jésus le rejoint. En disant, la paix soit avec vous, donc le salut fondamental. Et il dit à Thomas, avance ton doigt, regarde mes mains, avance ta main, mets-la, engage-la dans mon côté, ne te montre plus incrédule, mais homme de foi.
Ce n'est pas vraiment un reproche. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que ça comme une invitation à aller
si,
plus loin?
Mais je crois. Je crois. En tout cas, Jésus a l'air de répondre à l'exigence un peu impétueuse de Thomas, mais il me semble que dans cette phrase, Jésus invite celui qui chemine dans la foi ou dans la recherche de la foi à s'enfoncer dans la réalité de la passion. Pénètre le sens de la passion et tu me retrouveras en vie. Je dirais ça.
Oui, parce que les images sont très fortes, évidemment. Oui. Enfin, le geste est très fort.
Tout à fait. Mais il me semble que c'est en creusant, en approfondissant le sens de la passion que l'on retrouve la vie, que l'on retrouve le ressuscité. Moi, je l'entends comme ça.
Et puis alors, l'épisode se termine par une béatitude, comme je le disais tout à l'heure.
Une très belle béatitude. Oui, c'est une béatitude pleine de sens. Parce que tu m'as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu, c'est-à-dire nous. Assurément, oui, c'est une béatitude fondamentale. Et c'est donc la fin de l'Évangile.
Il y a effectivement encore deux versets que nous n'avons pas lus et qui sont véritablement une première conclusion, puisque nous avons le chapitre 21 qui est ajouté. Nous en reparlerons dans une prochaine émission. Je lis tout de même ces deux versets, le verset 30 et 31 du chapitre 20. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que, en croyant, vous ayez la vie en son nom.
C'est merveilleux. Oui. C'est un peu le développement de la béatitude, qu'il vient de prononcer. En croyant, vous ayez la vie en mon nom. Donc, c'est le mot vie qui termine cet évangile, cette première fin de l'évangile. Au fond, l'évangile est venu apporter la vie.
Et c'est donc par le récit que nous pouvons vraiment entrer dans cette aventure.
Voilà, exactement.
Et il y a aussi cette idée que l'action de Jésus a été foisonnante et que finalement, il y a des tas de choses que l'on ne connaîtra jamais.
L'action de Jésus a été...
Et a été foisonnante, véritablement. Jésus a opéré bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Donc il y a là une multiplicité d'actions qui ne sont pas rapportées.
Oui, c'est vrai. Oui, et je trouve que c'est important que l'évangéliste termine ainsi. Il dit ce n'est qu'un petit résumé de l'essentiel.
Ce petit résumé fait penser d'ailleurs au tout début de l'évangile de Marc, où il dit effectivement que c'est l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, et ici aussi que Jésus est le Christ, le fils de Dieu, et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Au fond, il y a quelque chose qui ressemble au tout début de l'évangile de Marc.
C'est vrai que malgré la différence et la distance entre ces deux évangiles, le premier Marc et le dernier Jean, il y a une cohérence profonde. Ça, c'est ce qu'il y a de plus impressionnant dans le Nouveau Testament, c'est que ces quatre évangiles, loin de se contredire, sont en cohérence parfaite.
Alors, Père José, pour la prochaine émission, nous allons aborder le chapitre 21, qui est un chapitre véritablement très très beau d'ailleurs, avec plusieurs épisodes. Alors, Père José, pourquoi cet ajout ? En fin de chapitre 20, nous avons l'impression que l'évangile est terminé, et pourtant, il n'est pas tout à fait terminé. Donc, pourquoi cet ajout, Père José ?
Eh bien, j'ai l'impression que ce chapitre a été écrit pour nous. C'est un chapitre qui nous est adressé, qui comporte au fond trois épisodes. Thomas, le jumeau, et le jumeau de qui, si ce n'est de nous. Il n'y a pas d'identification du jumeau. Et Thomas et sa question... pas insoluble, mais sa question tenace, qui est la nôtre. Il est le porteur du soupçon du monde, Thomas. Et en ce sens-là, il est très proche de nous. Je crois que le soupçon, le doute de Thomas, il est indéracinable. De la sensibilité humaine. Et la phrase qui le vit, c'est celle-ci, « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. » Voilà la phrase qui est pour nous là-dedans. Alors, après Thomas, il y a la pêche multipliée. Et là, il me semble que la phrase qui est pour nous dans ce récit, c'est, donc il y a l'épisode de cette pêche multipliée, et puis la phrase, aucun n'osait lui demander, qui es-tu ? Car il savait bien que c'était le Seigneur. Je trouve que c'est une phrase très importante. Il n'osait pas, mais il savait. Il savait de quel savoir.
Donc finalement, c'est quelque chose qui nous parle à l'intime de nous-mêmes.
Tout à fait.
Eh bien, Père José, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Oui. Et dans la prochaine émission, alors, nous allons passer en revue ce chapitre 21 avec toutes sortes de détails. Merci, Père José. Merci pour tous ces éclairages. Voilà, chers auditeurs, je vous laisse de nouveau avec Mozart, le concerto numéro 21 en ut majeur, lumineux comme le chapitre que nous venons de parcourir. Au revoir.